Ce n'est pas parce qu'il rend facile des combats qui de base sont difficiles que son chemin en est plus facile.
And now I just want to go to the bed. I'm number one contender, he's number four. This doesn't make sense. I just want to go now. I did it already.
This doesn't make sense. Not infinite title shots. I don't get it. This does not make sense. I just won the fight. I should get infinite title shots. For some reason, they want me to fight against another contender in top five. As top five myself. This does not make no sense to me. I don't understand. I don't understand what goes through Cyril Garn's mind. Keep listening.
Non, je n'accepte pas. Je n'accepterai pas. Nous sommes déjà d'un point de vue géopolitique, pour plusieurs raisons que je me refuserai d'évoquer sur ce podcast afin d'éviter qu'il soit shadowban, la risée internationale. Je refuse qu'il en soit de même en MMA. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet individu, lui c'est MMA Guru. Et d'après cet influenceur très suivi, du moins dans la sphère anglophone, une alliance de poids lourds, challenger au titre qui plus est, se serait constituée, en la personne de Curtis Blade, Tom Aspinall, et Pavlovitch, qui refuserait de combattre un Cyril Gane en vengeance au fait que les trois se sont vus refuser un combat par ce dernier. Pour la personne de Pavlovitch, c'est à débattre. Cyril Gane serait alors accusé d'être le plus gros duck, en anglais, le plus gros fuyard de la catégorie des poids lourds qui esquiverait les combats dangereux de la KT. Voilà comment est-ce qu'actuellement est perçu notre bon gamin national. Alors au début, on voyait ça simplement avec des montages assez amusant sur Twitter, des montages photos dont la pertinence est à discuter, on en parlera dans la vidéo, même si c'est vrai que c'était amusant pour certains, notamment pour les anglophones. Voilà, montage photo, mais ça s'arrêtait là, des trolls assez sympathiques. Mais là, ça dépasse le stade de simple montage enfantin. Des influenceurs commencent à s'en mêler. Une narrative commence à se construire contre notre bon gamin national. Et cette rhétorique, qui commence donc dangereusement à se démocratiser au sein des fans de la communauté MMA, et anglophones notamment, les Américains, les Anglais, les Irlandais, tout le monde y va un peu à cœur joie, quoi. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça parce que ça va au détriment d'une personne qui est sympathique, et qui n'embête personne. De là, MMA Guru, relativement apprécié, on va pas se mentir, hein, il est drôle, hein, vous avez pu le voir. D'ailleurs, je mets sa vidéo en commentaire pour éviter de me faire flag pour réutilisation de contenu. I'm just reacting to your content. MMA Guru, if you see this video, I'm not reusing it, all right? Just to be clear. Voilà, là, c'était une petite parenthèse pour éviter de me faire flag. De toute façon, si je me fais monétiser, bah, le peu de centimes que généreront cette vidéo iront à sa chaîne. Au moins, on peut débattre tranquillement là-dessus. Et bah, sa chaîne YouTube, justement, qui a plus de 100K abonnés. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là, pour le coup, il a recensé, justement, toutes les fois dans cette vidéo, cette fameuse vidéo, où Curtis Blade et Tom Aspinall, en conférence de presse, ont ouvertement refusé des propositions faites par les journalistes qui leur posaient des questions. Ils leur disaient « Et Cyril Gane, pourquoi ne pas le combattre ?» Ces derniers ont tout simplement refusé. Et il a recensé en expliquant pourquoi ces derniers refusaient de manière si ferme et brutale. La cause, Cyril Gane aurait successivement refusé de multiples propositions de combat venant de ses combattants, à savoir Curtis Blade, Tom Aspinall et supposément, tout récemment, Sergei Pavlovitch. Vraiment supposément, parce que c'est une déduction qui a été faite de par la communauté, certaines personnes de la communauté anglophone, en résultat au match-up Pavlovitch-Volkov. Donc, Gane aurait refusé et donc voilà ce que ça a créé. Là, ça devient quand même assez inquiétant si c'est le cas, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Et ça, ce ne sont que des déductions. Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire que faut regarder cette vidéo-là que je suis en train de faire jusqu'à la fin, sinon vous ne comprendrez pas mon argumentaire complet et vous réagirez en commentaire avant même d'avoir entendu la fin du propos. Est-ce que la sauce était prévisible? Je commencerai par dire oui, tout à fait prévisible. Est-ce qu'elle est justifiée? On va voir que ce n'est pas totalement justifié, en tout cas d'un point de vue général. Ce fut prévisible, en effet, que la communauté MMA réagisse de la sorte vis-à-vis de Cyril Gane, car même si ce n'était pas son intention première, ses actions et son inactivité ont engendré une certaine frustration, que ce soit chez ses adversaires ou les fans de ces derniers, donc les fans de Tom Aspinall, les fans de Curtis Blade et les fans de certains contenders qui voient Cyril Gane comme un combat abordable. Donc on pouvait s'y attendre, c'est le jeu, c'est le trash talk, c'est ce qui fait entre guillemets monter la sauce. Surtout lorsqu'on se souvient d'un Thomas Final qui espérait faire un face-off après le combat de Cyril Gane lors de sa dernière victoire à l'UFC Paris, et au final ils se sont retrouvés à faire ami-ami et à frapper à la machine à coups de poing ensemble. Est-ce une mauvaise chose? Je ne pense pas forcément, mais à l'époque peut-être que cela a grandement frustré le jeune champion intérimaire anglais qui avait pris un billet d'avion pour l'occasion, clairement. Il avait pris son billet d'avion pour ça, pas pour faire un ami-ami avec Cyril Gane. D'ailleurs, petite parenthèse, les face-off improvisés, ça ne lui réussit pas trop à Thomas Pinal. Hein. Après s'être mangé un bâche par Cyril Gane, il s'est mangé un enlève ta main par le GOAT John Jones, lorsque ce dernier a posé sa main sur John Jones. Celui-ci l'a très rapidement retiré en mode on n'est pas potes, qui a tout simplement, en plus de ça, froidement répondu non à l'anglais lorsqu'il lui a demandé est-ce qu'on peut faire un face-off devant les caméras. Il faut savoir que c'est une forte symbolique, hein, les face-offs. Lorsque deux combattants de la même catégorie qui sont très proches au classement, donc là en l'occurrence champion et champion intérimaire, et je ne sais plus combien il est classé Cyril Gane, mais très haut, acceptent de faire un face-à-face dans un endroit public dans lequel il y a des caméras, des photographes, bah, ça envoie un message implicite, très puissant, à Dana White et au matchmaker de l'UFC en disant « Oui, nous sommes prêts à nous affronter ». Et là, on ne peut que constater que ça ne se bouscule pas pour faire des face-offs avec Thomas Pinal, qui est selon moi, aujourd'hui, le poids lourd le plus dangereux de la catégorie, notamment à l'UFC. Donc je peux comprendre que ça ne veuille pas forcément faire des photos face-off en public avec ce dernier, ce qui impliquerait, suggérerait au matchmaker de l'UFC de combattre face à ce dangereux champion intérimaire. Donc on voit que déjà Thomas Pinal, pour fermer la parenthèse, les face-off, les face-à-face improvisés, c'est compliqué pour lui. Il a vraiment cette aura de prétendant dangereux. Mais là, ça a un peu changé parce que Cyril Gane, maintenant, il veut l'affronter. Et si on regarde les faits, pour revenir à la rhétorique de base, selon laquelle Cyril Gane choisirait des combats faciles pour accéder au titre, permettez-moi de douter de la véracité de cette rhétorique. En effet, en analysant les trois dernières victoires de Cyril Gane, on se rend compte qu'il s'est produit une chose assez intéressante. Lorsqu'on prend par exemple le Black Beast d'Eric Lewis, que Cyril a affronté chez lui hein, au Toyota Center, on se souvient de Houston, au Texas, qui était vu à cette époque Derrick Lewis comme l'un des plus gros KO artistes de la catégorie, qui effrayait pas mal de poids lourds et impressionnait énormément les fans, Cyril lui a fait une masterclass. Une masterclass après laquelle la valeur marchande, le stock, comme on dit en anglais, de Derrick Lewis, a complètement baissé. Énormément baissé. Donc là, c'est l'une des premières conséquences de perdre par TKO face à un Cyril Gane. Ta valeur marchande, entre guillemets, même si les poids lourds ont cet avantage de ne pas être énormément dans la catégorie, ce qui fait qu'une défaite va avoir moins d'incidence sur un poids lourd que sur un poids lightweight, par exemple, où le turnover est beaucoup plus élevé. Là, on a vu que les gens se sont dit « Ah ben en fait, Derrick Lewis, il n'est pas si fort que ça ». Pareil pour Tuivasa. Tuivasa à l'UFC Paris, KO artiste, extrêmement impressionnant, challenger sérieux au titre avant d'affronter un Cyril Gane, conséquence similaire. Après le TKO qu'il a subi face à Bonkama, sa valeur marchande a énormément baissé. Non pas auprès de Dana White, mais auprès des fans. Et oui, parce que c'est eux qui comptent au final. Les fans, la perception qu'on a vis-à-vis des fans de l'UFC, est ce qui va déterminer si on vend du pay-per-view ou pas. Et c'est ce qui va déterminer justement cette facilité des matchmakers à vous placer sur des combats à haute importance, en l'occurrence des combats pour le titre. Et là, on a vu que cette tradition-là, de voir sa valeur marchande baisser brutalement après une défaite face à Cyril Gane, a continué, notamment avec un Spivak, qui était vu comme quelqu'un qui avait cette capacité à soumettre de manière expéditive ses récents adversaires, qui avaient en plus sur son palmarès Tai Tuivasa, Derrick Lewis les a bu, littéralement bu de manière extrêmement impressionnante. Mais lorsqu'il s'est fait battre contre Cyril Gane, lorsqu'il a perdu face à Cyril Gane à l'UFC Paris 2, les gens l'ont carrément en France qualifié de plombier. C'est vous dire le changement de perception brutal qu'ont subi ses trois derniers adversaires suite à une défaite face à Cyril Gane. Et là, on peut se dire, c'est compliqué cet effet Cyril Gane, cet effet défaite par TKO. D'autant plus que là, c'est la communauté internationale et anglophone qui est en train de se dire que Cyril Gane n'affronte que des plombiers. Alors certes, ils ne sont pas dans la meilleure shape esthétique de leur carrière, ça je peux leur accorder, mais athlétique, si, ça c'est indéniable. Pour concourir au haut niveau à l'UFC, même en étant poids lourd, c'est pas parce qu'on a de la, on va dire, de la masse adipeuse que l'on n'est pas en excellente shape. Et là, faut se dire, bah, il affronte des combattants d'élite qui sont extrêmement dangereux. Et la résultante de cela, c'est que la manière dont il les bat fait baisser drastiquement leur valeur marchande et peut, paradoxalement, nuire à la réputation et à la valeur du palmarès de Cyril Gane. Donc c'est un paradoxe qui est super intéressant à étudier. Parce qu'on voit que ça donne naissance à des montages photos assez drôles. Et ça, c'est principalement finalement le contre-argument que j'utiliserais contre celles et ceux qui pousseraient la rhétorique selon laquelle un Cyril Gane choisirait un chemin facile. Facile pour aller au titre. Je ne suis pas d'accord. Il y a une différence entre choisir des combats faciles et choisir le chemin le plus rapide. En l'occurrence, ici, on voit très bien que la stratégie de Bon Gamin est d'aller le plus rapidement à la ceinture, ce qui est logique vu qu'il y a un record à prendre en devenant le premier Français de l'histoire à devenir champion de l'UFC. Peut-on lui en vouloir ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse en vouloir à Bon Gamin pour vouloir chasser ce record et saisir cette opportunité d'entrer dans l'histoire du MMA français notamment. Faut se mettre à sa place, c'est assez stressant. Faut se mettre à sa place aussi parce qu'il est dans une catégorie où il a cette chance, il y a moins de combattants, donc il veut vraiment capitaliser sur le matchmaking. Il veut vraiment utiliser le levier du fait que c'est lui une superstar en France, c'est un combattant sur lequel il faut miser pour inciter Dana White et les matchmakers de l'UFC à lui donner ce combat pour le titre. On pourrait se dire, oh mais ça fait beaucoup, il a déjà perdu une ou deux fois, John Jones c'était rapide. Ouais mais les gars, on sera bien content lorsqu'il aura chopé cette ceinture. Parce que là, croyez-moi qu'il va nettoyer la division. Croyez-moi qu'il va tous les prendre. Donc moi je vois pas pourquoi est-ce que... Regardez en boxe anglaise ça se fait énormément. Ça zigzague, on va pas mentionner des noms tels que Ryan Garcia et d'autres, il y a déjà assez de soucis comme ça, mais ça zigzague énormément pour arriver à la ceinture le plus rapidement possible. Ceux qui unifient en se battant avec d'autres boxeurs qui ont déjà plusieurs ceintures, c'est pas tout le monde qui utilise la méthode Errol Spence en combattant chaque champion un par un. Non, il y en a plein qui vont directement aller vers des champions déjà unifiés. Et là, on pourrait le voir un peu de cette manière-là. Il veut, au lieu de prendre des contenders, certes, comme il l'a dit dans la vidéo des MMA Guru, dangereux, alors qu'il a la possibilité d'aller vers le titre. Et là dans ce cas-là, c'est vrai que l'UFC n'a pas communiqué clairement en disant « Cyril ne le mérite pas, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va critiquer Bon Gamin pour tenter cette chance-là. » Faut pas oublier qu'on est chez les poids lourds. Et je l'ai très justement vu dans une interview de Gong avec Raphaël Tronchet qui a dit « Des gants de MMA, la taille, ce sont les mêmes, que tu sois en poids plume ou en poids lourd. Et les dégâts sont extrêmement dangereux. Donc, peut-on vouloir à Bon Gamin de vouloir préserver ses neurones et de capitaliser sur le matchmaking ? Je ne pense pas. En tout cas, maintenant, dans sa quête à la ceinture, dans sa quête au record français, moi, je ne lui jette pas la pierre. Je peux comprendre que les Anglais et les anglophones lui jettent la pierre, ça peut être frustrant, mais moi, de ce point de vue-là, je ne lui jette pas la pierre. Ce n'est pas parce qu'il rend facile des combats qui, de base, sont difficiles que son chemin en est plus facile. S'il avait lutté face à tous les combattants auxquels il a fait face dernièrement, peut-être que la rhétorique aurait changé. Mais c'est un peu le fait qu'il ait rendu ça facile, qu'il ait un peu ce génie-là du footwork, des déplacements qui prennent très peu de dégâts, qui vont frustrer, je pense, la communauté un peu anglophone. Voilà le biais cognitif, selon moi, dans lequel est bloquée la majorité des fans de l'UFC aujourd'hui vis-à-vis de Cyril Gane. C'était une vidéo rapide un peu pour parler de ça, parce que je me dis, il ne mérite pas vraiment le backlash qu'il a aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Cyril Gane aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fuit les combats dangereux ou c'est quelqu'un qui légitimement, ce que je pense, capitalise sur le fait que c'est ouvert pour le titre aujourd'hui. On a un John Jones qui a battu un Cyril Gane, qui est sur un layoff qui commence à devenir assez frustrant à cause d'une blessure, qui est revenu de blessure, qui ne veut pas non plus affronter un Aspinall, mais lui, on ne lui tire pas forcément dessus, quoique ça commence à arriver. Je ne lui jette pas forcément la pierre à Cyril Gane là-dessus. Parce qu'on voit que là, John Jones s'est un peu mis en stand-by la catégorie. Il a un peu bloqué tout le monde. Je fais partie de celles et ceux qui pensent que dans un beau jour, Cyril Gane est imprenable. En pleine confiance et possession de ses moyens, selon moi, il est imprenable aujourd'hui, même face au très, 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 très dangereux Aspinall. Là, en commentaire, je sais que certains vont me détruire. Légitimement, allez-y, c'est The War Room, vous avez le droit, ça fait monter le référencement, sans trop insulter, bien évidemment. Mais aussi, je peux aussi comprendre qu'actuellement, il soit dans une sauce à l'international et que ses actions soient interprétées de cette manière-là. Qu'il soit vu comme le fuyeur, le duck. Et ce n'est pas, on va dire, un constat fataliste, puisque selon moi, selon le prochain combat qu'il va prendre et la prestation qu'il va faire, même pas la prestation, tout simplement le choix de matchmaking qu'il va prendre, c'est-à-dire que s'il prend Almeida ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est vraiment coriace, il peut faire taire toutes ces allegations, toutes ces accusations de fuyard de la catégorie. Et je vous invite à regarder aussi cette vidéo-là de MMA Guru où il dit qu'il est important que Dana White punisse ce genre de comportement fuyard et pas qu'il le récompense. Car ce serait grave si Cyril Gane était récompensé pour avoir fui les combats difficiles. Est-ce que vous êtes de cet avis-là en commentaire ? Dites-le en commentaire, s'il vous plaît, si vous êtes aussi de cet avis-là, de l'avis de la communauté un peu frustrée anglophone qui pense que c'est important que Cyril Gane se mange un ou deux combats difficiles avant le titre afin que ce genre de comportement, notamment dans la catégorie poids lourd, il n'y a pas énormément un gros star assez développé, afin de donner une leçon aux combattants qui essaieraient de fuir les combats difficiles pour accéder à cette ceinture. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi ça ne me dérangerait pas si Cyril Gane avait un combat pour le titre maintenant. Bien au contraire, après c'est vrai que c'est mon côté chauvin. Par contre, je trouve ça illégitime de complètement décrédibiliser ses 3 ou 4 dernières victoires sous prétexte que ses adversaires n'étaient pas dans une shape esthétique telle que Francis Ngannou ou Anthony Joshua. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, les gars. Et ça, je pense que c'est le piège peut-être dans lequel est en train de tomber la communauté internationale. Après, c'est vrai que ça reste du troll. Mais bon, faut faire attention. Faut faire attention, parce que là, j'ai envie de dire... Ah, la jalousie des light skin, encore une fois. La jalousie des light skin est en train de frapper sous prétexte que Cyril Gane est un light skin beau gosse, qui danse, qui sourit énormément. Ça lui joue défaut. Décidément, la jalousie des light skin, ça joue défaut, même... en MMA. Parce qu'on sait que ça existe beaucoup hein, dans le rap, etc., etc. Mais bon, ça, c'est ceux qui ont les références qui comprendront. Je ne m'expliquerai pas. Par contre, ce qui m'inquiète, là, pour le coup, c'est le fait que Cyril Gane ne soit pas booké jusqu'à présent. Ça, c'est vrai que c'est assez inquiétant. J'espère que ça va s'arranger. J'espère qu'il va être booké. Pourquoi pas perdre... Moi, pour le titre, on va dire mon côté chauvin serait content. Mais si ce n'est pas pour le titre, dans tous les cas, je vais regarder et je pense que Cyril Gane a les armes pour battre tous les poids lourds aujourd'hui, s'il est dans le bon état d'esprit, voilà, c'est-à-dire l'esprit de conquérant. Et je pense que cette défaite face à John Jones l'a piqué et il a envie de sang, il a envie de prouver aux gens que ce n'est pas seulement un bon gamin, mais aussi un dangereux gamin, j'ai envie de vous dire. Sur ce, les goats, voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour réagir très rapidement à cette petite polémique. Hein. Dites-moi en commentaire si vous pensez que la sauce anglophone, anglo-saxonne est mérité pour notre bon gamin national, ou si vous pensez que c'est un peu exagéré et qu'on manque tout simplement de respect à son palmarès récent, n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram, Twitter, commenter, même si ça débat, ça... N'insultez pas, sinon votre commentaire, il ne va pas apparaître. C'est plus moi qui gère, je laisse l'algorithme gérer. Mais si vous n'êtes pas d'accord ou que vous voulez troller, soyez drôle, soyez ingénieux. au moins, ça nous fera rire et ça fera rire les gens. Sur ce, je pense que je vais vous dire le mot de la fin. Prenez soin de vous. Nous sommes actuellement avec l'équipe en train de travailler sur des concepts originaux qui vont pas tarder, ne vont pas tarder à arriver. Donc restez connectés. Peace, les gars.